Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être pas, mais l'année dernière, il y a déjà pas mal de semaines, il y a quelques mois, j'avais fait une série de prédications sur le chapitre 4 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et ce matin, nous n'avons pas, à cause de la vie de l'Église, d'autres sujets qui ont été abordés, qui ont dû être abordés, nous avons dû interrompre cette série de prédications. Et nous ne sommes pas arrivés à la fin du chapitre 4. Donc ce matin, j'aimerais bien revenir à ce chapitre 4 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 2 même du chapitre 5. Et le message ce matin ne sera qu'une introduction à l'étude de ce passage. Donc nous allons revenir plus tard, un autre dimanche, un peu plus en détail. Alors ce passage nous dit ceci. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Voilà si l'on veut du concret, n'est-ce pas? Ce passage ne peut laisser, je pense, aucun de nous indifférent. Et lorsque je l'ai lu cette semaine, lorsque j'ai commencé à méditer ce passage, je me suis dit, mon petit Samuel, tu as du boulot dans ta vie. Je ne sais pas si vous dites la même chose par rapport à vous aussi, sans doute par rapport à moi, mais on a du boulot, n'est-ce pas, quand on lit ce passage. Et j'ai commencé d'abord par faire trois constats. Et ce sont ces trois constats que j'aimerais présenter ce matin. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le détail, on verra la fois suivante. Le premier constat, c'est que ce passage est rempli de quelque chose qu'on n'aime pas trop, des impératifs, n'est-ce pas ? Des impératifs. Et si on ne lisait que ce chapitre, sans tenir compte du contexte général de cette lettre, ce que l'apôtre Paul dit avant et après, on pourrait penser que l'apôtre Paul est un homme terriblement légaliste. Or, quand on lit attentivement le contexte, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du légalisme, car dans cette lettre, il parle beaucoup de la grâce de Dieu manifesté en Jésus-Christ, la grâce qui nous sauve. Il suffit, par exemple, de rappeler le verset 2 du chapitre 8 où il dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. » Or, les impératifs de la vie chrétienne qu'il mentionne ici découlent de la grâce de Dieu en nous. Ils sont les conséquences, on pourrait dire, les conséquences pratiques de notre vie en Christ. Vous avez remarqué qu'il commence ce passage au verset 25 par « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Paul ne dit pas que nous devons obéir à ces impératifs pour être sauvés, mais parce que nous avons été sauvés, parce que nous sommes sauvés, nous voulons mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui a été créé en Jésus-Christ, celui qui est en Christ, celui qui s'est dépouillé du vieil homme, comme il le dit quelques versets auparavant, celui qui a reçu une nouvelle nature ne vit plus comme autrefois. Il ne vit plus comme les gens sans foi, n'est-ce pas, les gens du monde. Il vit et se comporte différemment. Ce qu'il est à l'intérieur de lui-même, le changement intérieur que le Christ a, a opéré en lui par son Saint-Esprit change aussi sa manière de vivre, change aussi ses attitudes, ses comportements, sa manière d'être tout simplement dans ce monde. Le deuxième constat, c'est que ces impératifs ont à faire avec notre vie relationnelle. Et quand on parle de notre vie relationnelle, on aborde quelque chose de très, très délicat, n'est-ce pas, très compliqué. Il est question dans ce passage de notre relation avec notre prochain, c'est-à-dire toutes les personnes que nous rencontrons chaque jour et tout au long de notre vie, n'est-ce pas? Or, on le sait bien, parmi tous les défis qui nous sont posés, la gestion des relations est un des plus aigus, il faut le dire, n'est-ce pas? C'est pas simple. Et personne n'échappe à ce défi. Nous devons tous faire des face à ce défi à chaque instant, chaque jour. Que ce soit en famille, les membres de la famille entre eux, n'est-ce pas? Le conjoint qui ronfle, etc., etc. Que ce soit en société où nous passons une bonne partie de notre journée, que ce soit en église. Et je vous rappelle que l'apôtre Paul, dans cette lettre aux Éphésiens, traite ce sujet de l'unité de l'Église, n'est-ce pas? L'unité de l'Église qui est quelque chose d'essentiel pour le témoignage à l'extérieur, pour notre bien aussi à nous, mais pour le témoignage à l'extérieur. Et on remarque en lisant cette lettre que les problèmes que l'apôtre Paul rencontrait à son époque sont exactement les mêmes que nous rencontrons aujourd'hui. Ils existaient à l'époque, ils existent toujours. À propos de cette question relationnelle, qui est donc très importante du point de vue biblique aussi, j'ai lu quelques documents qui m'ont intéressé et j'aimerais les présenter ce matin. Par exemple, la Fondation Carnegie a découvert que pour réussir au travail, quelque chose qui nous intéresse, pour réussir au travail, les aptitudes relationnelles sont bien plus importantes que la connaissance. Ces recherches montrent que seulement 15% de la réussite d'une personne dépend de sa connaissance, de ce qu'elle donc connaît de son travail, de ses aptitudes techniques, alors que 85% dépend de son attitude et de sa capacité de nouer de bonnes relations avec les autres. L'autre jour, je discutais via Facebook avec un oncle qui est professeur de philosophie. Il a l'habitude, à peu près chaque semaine, d'écrire un petit article très philosophique sur des sujets d'actualité. Et donc, voilà, souvent c'est des choses qui percutent, qui touchent très fortement. Et ce jour-là, il faisait l'éloge de l'intelligence. Il faisait l'éloge de l'intelligence pour résoudre donc les problèmes actuels. Et je crois que le titre de son article, c'était « La mort du QI », donc le quotient intellectuel. Et donc, dans la discussion, je lui ai rappelé que, attention, l'intelligence ne résout pas tout. L'intelligence ne résout pas tout. D'abord, et je pense que souvent on l'oublie, n'est-ce pas, il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a plusieurs manières de se comporter aussi avec l'intelligence qu'on a. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce professeur de mathématiques qui est allé faire un tour en bateau un jour avec un pêcheur pour se promener un petit peu. Donc il a pris place dans le bateau, ils sont allés un petit peu vers le large. Et ce professeur de mathématiques a commencé à poser des questions de mathématiques et d'autres questions au pêcheur. Et le pêcheur ne savait pas. Et il disait « je ne sais pas ». Il ne savait pas répondre. La seule chose qu'il savait, c'était pêcher, c'était son métier. C'était un homme qui n'avait pas beaucoup d'instructions, n'est-ce pas, beaucoup de... voilà. Mais il savait pêcher. Et donc, le professeur de mathématiques lui disait, mais à chaque réponse, je ne sais pas, le professeur lui disait, mais vous avez perdu la moitié de votre vie. Encore une question, je ne sais pas, mais vous avez perdu la moitié de votre vie. Et tout d'un coup, il y a une tempête, n'est-ce pas, qui est arrivée. Le bateau a chaviré. Et le pêcheur lui a demandé au professeur de mathématiques, est-ce que vous savez nager? Je ne sais pas nager, il était en train de se noyer déjà. Alors vous n'avez pas perdu la moitié de votre vie, vous avez perdu votre vie. Voilà, donc, cette question de... Il y a plusieurs types d'intelligence, plusieurs types de savoir, n'est-ce pas? Plusieurs types de savoir. plusieurs manières de se comporter avec l'intelligence, donc, comme je disais tout à l'heure. Il y a des personnes intelligentes qui utilisent leur intelligence, hélas, pour le mal. Et c'est ce que j'ai voulu rappeler à mon oncle aussi. N'est-ce pas? Des gens très intelligents qui utilisent leur intelligence uniquement pour, ou presque uniquement pour faire le mal. Et je crois que je n'ai pas besoin de donner des exemples, n'est-ce pas? Il y a des exemples très concrets de criminels très intelligents, n'est-ce pas, qui ont utilisé vraiment leur savoir, leur intelligence pour faire des dégâts terribles au sein de l'humanité. D'autre part, on oublie souvent qu'à côté de l'intelligence mathématico-logique, l'intelligence abstraite, n'est-ce pas, l'intelligence pratique, par exemple celle de ce pêcheur qui savait au moins pêcher, n'est-ce pas, il y a également l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle. Je crois que c'est une notion qui est apparue il y a une quinzaine d'années, mais elle est réelle. L'intelligence relationnelle, cette intelligence qui est essentielle à notre vie de chaque jour. Et j'ai conclu ma discussion avec lui en lui rappelant cette parole de Saint-Exupéry. L'intelligence ne vaut qu'au service de l'amour. L'intelligence ne vaut qu'au service de l'amour. Ainsi donc, la règle d'or de la réussite relationnelle, de la réussite professionnelle, se trouve dans le fait d'être poli, d'être courtois, d'être attentionné vis-à-vis des autres. C'est en tout cas la règle la plus importante pour avoir des relations agréables, n'est-ce pas? C'est également un principe spirituel fondamental qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Car lorsque nous imitons Christ en aimant notre prochain, ce n'est pas simplement pour réussir dans notre travail, pour réussir notre vie professionnelle, mais pour obéir à Dieu. Pour obéir à Dieu qui nous commande de nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors je dirais que dans notre vie d'Église, c'est la même chose. Le défi d'une bonne relation, d'une relation saine, reste, d'une relation fraternelle, saine, n'est-ce pas, reste entier. Ce n'est jamais facile de nous ajuster avec d'autres personnes, de nous ajuster les uns aux autres. D'où donc l'importance de l'étude de ce passage que nous allons aborder bientôt, n'est-ce pas, à la lumière donc de la parole de Dieu. Nous devons savoir comment vivre avec les autres. L'Évangile nous enseigne l'art de vivre avec notre prochain. Il s'agit donc de mettre Christ au centre de notre vie, au centre de nos relations sociales. Comme disait l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'évangile du Christ qui ressort, n'est-ce pas, et qui fait que je vis différemment dans ce monde. J'ai trouvé aussi dans mes archives un document qui s'intitule « 10 règles de vie et d'harmonie dans l'Église ». Et je vais demander à Anne-Marie de nous passer chaque règle par un certain Stanley Jones que je ne connais pas, mais en lisant ce document, je me suis dit que cet homme connaissait bien la vie de nos églises et il a dit des choses très intéressantes. Je ne sais pas si on peut mieux régler le... Donc je vais les citer toutes car je trouve pertinent ce qu'il dit. On peut apprendre beaucoup de choses, en tout cas rappeler des choses essentielles, n'est-ce pas? Des choses qu'on peut vivre, des choses qu'on peut abandonner, ce sont donc des principes qui nous aident à savoir comment vivre au lieu de dépendre de nos sentiments. Et vous savez que la gestion de nos sentiments et de nos états d'âme, c'est quelque chose de très difficile. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais je crois que cette réflexion de Stanley Jones peut nous aider. Voici donc les principes assimilés pour vivre en bon terme les uns avec les autres dans l'Église. Reconnaissons que la vie de l'Église est une vie collective. Beaucoup de chrétiens ne le réalisent pas. Ils considèrent encore la vie d'Église sous un angle individuel. Et la conséquence, c'est qu'ils sont en conflit constant avec les autres. Ils considèrent tout en fonction d'eux-mêmes, au lieu de s'incorporer dans le tout. Ils deviennent des cellules cancéreuses au lieu d'être des cellules génératrices. On a des médecins dans la salle qui pourraient mieux expliquer cela que moi, n'est-ce pas? Mais une cellule cancéreuse, c'est quoi? C'est cette cellule qu'il demande à être toujours servie, n'est-ce pas, au lieu de servir. Elle veut être servie, c'est tout, au lieu de servir le reste du corps. Deuxième principe, manifestons de la loyauté envers nos frères et sœurs et refusons de les critiquer derrière leur dos. L'amour fraternel est fondé sur la confiance. Les critiques clandestines minent la confiance. Donc, bannissons la critique clandestine, n'est-ce pas, de notre milieu. Bannissons-la. On sait bien qu'aucune amitié n'est réelle si vous suspectez des critiques clandestines. Mais à partir du moment où il n'y a plus de critiques secrètes, la confiance et la liberté règnent. Avant de critiquer autrui, demande-toi, est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce par amour? Si la critique peut passer par ces trois cribles successifs, alors énonce cela franchement et ouvertement. Cela me fait penser à certaines personnes dans nos milieux chrétiens, des personnes très pieuses, n'est-ce pas, qui, dans leur intention d'être droites, ont tendance à pointer les péchés des autres, n'est-ce pas? Les péchés des autres, peut-être pour paraître elles-mêmes meilleures aux yeux de tout le monde. Je trouve que ça, c'est quelque chose, c'est une attitude qui n'est pas bonne, c'est une attitude détestable. Je dois m'occuper de ma vie, de mes péchés, n'est-ce pas, de mes difficultés. J'ai envie de dire, Samuel, occupe-toi de tes oignons, n'est-ce pas, et laisse les autres, prie pour eux, mais laisse-les tranquilles. Troisième principe, ne nous montrons pas tatillons en cherchant perpétuellement à corriger les autres. Veillons aussi à être plus prompts à complimenter et encourager qu'à blâmer. Ne craignons pas par nos encouragements de cultiver l'orgueil d'autrui, car les personnes sincères acceptent aussi facilement les compliments que les critiques. Si nous nous efforçons de tout vouloir corriger, nous risquons de devenir des chercheurs de petites bêtes. Et il raconte l'histoire de deux Indiens distingués qui avaient fait un séjour en Angleterre. L'un était enthousiaste de ce qu'il a vu, de tout ce qu'il découvrait, n'est-ce pas? Et il voulait mettre en pratique toutes ces nouvelles découvertes. Dans son pays, il est devenu un grand conducteur spirituel. Il avait appris beaucoup de choses. L'autre, la seule chose qu'il se rappelait, c'était les choses négatives de ce pays. Les écriteaux qui disaient « attention aux pickpockets » et des choses comme ça. « Attention à ceci, attention à cela ». Et c'est la seule chose qu'il a gardée de cette visite en Angleterre. Il se disait, mais comment dans un pays chrétien, on peut avoir tellement de choses comme ça? Ce n'est pas possible. Il a nourri son âme de petits riens, n'est-ce pas? Il a laissé de côté ce qui était important, la beauté et la culture, le peuple, etc., qu'il était en train de découvrir. Cette histoire rappelle aussi celle d'un homme d'affaires dont l'impression primordial et définitif d'un voyage qu'il avait effectué dans un pays se réduisait à une fenêtre qui fermait mal dans son hôtel. Là aussi, il a eu la malchance de tomber dans une chambre où la fenêtre avait des problèmes pour fermer, et la seule chose qu'il a gardée de son voyage, c'était cette fenêtre qui ne se fermait pas comme il fallait. Je pense, frères et sœurs, que la parole de Dieu nous appelle à vivre une attitude positive, n'est-ce pas, face aux difficultés aussi qu'on retrouve. Et il y a des petites difficultés aussi qu'on retrouve, mais est-ce que nous allons garder ces petites choses ou garder les grandes choses qui nous apportent une grande bénédiction? Le quatrième principe, soyons prêts à céder sur des petites choses. Nous faisons souvent des montagnes d'une topinière. Il vaut beaucoup mieux céder sur de petites choses et rester inébranlable sur celles qui sont importantes. Nous devons apprendre, c'est une des grandes leçons de la vie, à considérer petit ce qui est petit et grand ce qui est grand. Souvent, nous renversons l'ordre de ces valeurs dans nos rapports fraternels. Cinquième principe, refusons d'être froissés. Une personne susceptible est toujours de compagnie difficile. Elle voit partout des allusions personnelles. Elle est blessée par les remarques les plus inoffensives. Si nous cherchons des allusions, nous en trouverons toujours. D'ailleurs, les psys, n'est-ce pas, nous disent que cette attitude défensive de certaines personnes montre peut-être l'existence d'un problème, d'un complexe d'infériorité ou d'une crainte quelconque qui vient peut-être de l'enfance ou quelque chose comme ça. Sixième principe, attachons-nous à nos devoirs plutôt qu'à nos droits. Ce n'est pas le discours qu'on entend chaque jour, n'est-ce pas, dans la rue et dans nos entreprises, n'est-ce pas? Si nous insistons toujours sur nos droits, nous penchons du mauvais côté. Pensons plutôt à nos privilèges de rendre service aux autres et nous aurons alors plus de droits que nous n'en pourrons utiliser. Septième principe, battons le fer pendant qu'il est chaud. Si nous nourrissons un ressentiment quelconque dans notre cœur, il nous empoisonnera. Éliminons-le tout de suite. Ne remettons pas une explication nécessaire à plus tard. Ce serait une lâcheté. Jésus a dit, mets-toi d'accord avec ton adversaire promptement pendant que tu es encore en chemin. Ne perdons donc aucune occasion. Cultivons l'esprit de décision. Huitième principe, sachons garder le pouvoir de rire de nous-mêmes. Ce n'est pas facile de rire de soi-même. Mettons-nous devant une glace et éclatons de rire. J'ai participé de loin à une séance de rire où on essayait de voir avec un jury quel était le plus beau rire. Et c'est vrai qu'on se marre bien. Peut-être qu'un jour on pourrait le faire aussi chez nous. La capacité qu'a un homme de rire de lui-même est le thermomètre de son caractère. Il y a plusieurs degrés, dit-il. Tout en bas, l'homme ne sait pas rire. Plus haut, il rit de ses plaisanteries. Plus haut encore, il rit des plaisanteries de ses semblables. Tout en haut, il rit de lui-même. Alors, je ne sais pas quelle est notre échelle à nous, n'est-ce pas? À quel niveau on se trouve. Mais apparemment, c'est vraiment nécessaire de savoir rire de soi-même, n'est-ce pas? Le pouvoir de rire de soi-même révèle la capacité de voir, de se voir objectif, d'une manière objective. Neuvième principe, corrigeons immédiatement toute injustice dans nos relations avec nos frères et sœurs. Si nous remarquons une injustice fondamentale au cœur de nos relations avec un membre de l'Église, ne conseillons pas de patienter, à moins de faire en même temps tout notre possible pour rétablir la situation. Si nous n'agissons pas ainsi, toute notre vie d'Église risque d'en être continuellement empoisonnée. Aucune sympathie superficielle ne peut compenser cette négligence. Construisons nos relations fraternelles sur la justice et tout deviendra plus facile. Et enfin, le dixième principe, réalisons que nous nous complétons les uns les autres. Réalisons que nous nous complétons les uns les autres. Un passage de la Bible, on l'a lu, n'est-ce pas, proclame que nous sommes tous membres les uns des autres. C'est le passage qu'on a lu tout à l'heure. Nous sommes tous membres les uns des autres. Cette pensée doit nous préserver de toute jalousie. Si un membre de votre Église vous surpasse dans le champ, par exemple, c'est comme si vous possédiez vous-même ce talent. Vous devriez alors vous réjouir de posséder un si remarquable talent. Un autre membre de votre groupe excelle-t-il dans ses facultés d'administrateur? Réjouissez-vous donc, parce que c'est comme si vous possédiez vous-même ce don. Vous contribuez vous-même pour une certaine part au bien-être du groupe. Vous êtes vous-même fort sur un point où votre frère est peut-être moins fort et c'est ensemble que vous faites la force de l'Église. Aucun de nous n'a tous les dons. Nous sommes membres les uns des autres, nous sommes tous nécessaires. Voilà donc les 10 règles de vie et d'harmonie de l'Église par Stanley Jones. Et nous arrivons maintenant, on peut mettre le passage biblique, nous arrivons maintenant au troisième constat avec lequel je vais terminer dans cette introduction à l'étude de ce passage. Et le troisième constat, c'est que chaque impératif, si on regarde bien, chaque impératif ici dans le texte est constitué d'une interdiction, mais aussi d'un commandement positif. Et ça, c'est très intéressant. Une interdiction et un commandement positif. Autrement dit, il ne suffit pas de renoncer uniquement, par exemple, à la colère, à l'amertume, à la calomnie, etc. Mais il faut encore être bon, compatissant, généreux, poli envers les autres, n'est-ce pas? Avoir un esprit de pardon. Il ne suffit pas de renoncer au mensonge, nous dit l'apôtre Paul, mais il faut encore incarner la vérité, l'honnêteté, la parole 100% fiable, et ainsi de suite avec les autres commandements. On verra ça la prochaine fois. Donc, le débat est ouvert. Mais lisez ce texte à la maison et vous allez voir que ça peut nous apprendre beaucoup de choses. Pour terminer, gardons en tête que finalement, le Seigneur veut l'unité de l'Église. Le Seigneur veut l'unité de l'Église. Le Seigneur veut que chacun se sente bien dans tel ou tel milieu et dans le milieu chrétien, n'est-ce pas? Parce que cela est nécessaire pour soi-même et pour les autres. C'est bienfaisant pour soi-même, bienfaisant pour les autres. Le Seigneur veut nous aider à enlever finalement tous ces obstacles qui existent dans nos relations les uns avec les autres pour que l'unité, la communion dans l'Église soit saine et soit bienfaisante. Examinons-nous donc à la lumière de ce que le Seigneur nous dit afin que nous puissions répondre à ces exigences avec l'aide, avec son aide, l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas, et ainsi vivre des relations harmonieuses entre nous qui témoignent de ce que le Christ a fait dans nos vies et de ce qu'il peut faire aussi dans la vie des autres. Que le Seigneur nous bénisse.